Bonjour tout le monde, bienvenue à Innove et Créa. Aujourd'hui, j'ai ma voix de fée enrhumée, donc vous excuserez la petite voix. Aujourd'hui, mon invité, c'est Steve Joncoux. Bonjour Steve.
Bonjour Julie, très content d'être là.
Steve, tu décris comme un chercheur en série, tu fais plein de choses. Tu es aussi chargé de projet au LIO, tu es facilitateur, tu es aussi prof associé chargé de cours à l'UQAR, doctorant en sociologie, postdoc en développement régional, tu as travaillé beaucoup sur la valorisation des déchets, la gestion de l'eau de l'agriculture. Fait qu'entre la France, l'Afrique, plein de voyages, tu as atterri au Québec, précisément à Rimouski.
Exactement, oui.
Fait que tu es parmi nous depuis 6 ans, c'est ça?
Ouais, exactement, c'est arrivé en 2017.
Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un projet, ben de plusieurs projets que tu portes, dont le Fab Région et la Fab Région, en fait. Mais avant ça, je te pose la question que je pose à tous mes invités, qui est la question racine, qui est la suivante. Quand tu étais tout petit, je sais pas, 10, 12 ans, par quoi tu étais fasciné? Qu'est-ce qui t'intriguait? Qu'est-ce qui peut-être te passionnait?
Oh, c'est toute une question.
La réaction de tout le monde, c'est celle-là.
Ouais, j'avoue, je ne l'avais pas vu venir. Je pense que peut-être ça va être une réponse bateau, mais en vrai, par toute. Moi, j'ai jamais eu dans la vie de truc, tu sais, sur lequel j'ai vraiment tiqué fort en disant, hey, moi, ma passion, c'est ça. Il y a du monde qui a de la passion à cet âge-là, c'est pour les dinosaures, c'est pour. Moi, j'ai toujours été très curieux de tout, pas mal. Fait que, tu sais, je pourrais pas te dire, il y a ça et ça. Il y a des milliers de trucs sur lesquels j'ai aiguisé ma curiosité pendant toutes ces années. Fait que vraiment, vraiment, à réfléchir, je pourrais pas te dire un truc en particulier. Par contre, la curiosité, je pense, ça me caractérisait vraiment quand j'avais 12 ans, puis je pense encore aujourd'hui.
Je pense que c'est le prof des polymathes. Et puis, ça semble être quand même une caractéristique que plusieurs des invités partagent.
OK.
Fait que raconte-nous, qu'est-ce qui t'a amené à Rimouski?
Ben, c'est ça, comme tu l'as dit, moi, j'ai fait un parcours de base en sociologie. Ça a pris quelques années, tu sais, justement, je suis allé fouiller dans plein d'affaires en sociologie pour finir par tomber sur la question de la sociologie de l'environnement, qui était une découverte pour moi. Avant, je pense que je pouvais même pas imaginer qu'on pouvait faire de la sociologie de l'environnement.
Quand même,
ça,
hein, oui.
Ouais, ça a vraiment été une grande découverte.
On est dans l'innovation de la pensée aussi, là.
Complètement, complètement, oui, parce que quand j'ai commencé ça, c'était une branche de la sociologie qui était encore assez récente, qui est en pleine effervescence. C'est que c'est ça, du coup, j'ai touché un peu à plein de choses différentes autour de l'environnement dans mon doc. C'est surtout mon doc qui m'a amené à voyager, à aller regarder justement en Afrique, en France, en Europe, dans différents endroits. Puis, en France, tu sais, il sort peut-être, je sais pas, 100, 200, 300, 400 doctorants en sociologie et doctorantes en sociologie à chaque année, peut-être un ou deux postes, tu vois, avec des profils adaptés par année. Fait que puis moi j'ai quand même eu très tôt l'idée de se dire j'aime beaucoup la recherche, j'aime beaucoup jouer avec les idées, jouer avec les concepts et la théorie, mais j'ai besoin d'avoir du concret, j'ai besoin que ça se soit ancré dans la réalité. Fait que rapidement, en fait, après mon doctorat, je suis allé faire une formation complémentaire, faire un master professionnel, vraiment dans l'idée d'avoir des cordes beaucoup plus professionnelles à mon arc. J'ai travaillé pendant quelques années dans une équipe de recherche technologique, justement pour être dans une approche très appliquée, toujours dans l'environnement, qui a été aussi un super moyen justement de travailler sur plein de choses différentes et de toucher à la question des déchets, à la question de la gestion de l'eau, à la question des terres agricoles, plein de choses assez diversifiées. Puis quand même, tu sais, au bout de, je sais pas, ça a pris 3-4 ans après mon doctorat où, tu sais, je passais mon temps à aller de petit contrat en petit contrat, puis pas avoir de poste fixe. Jusqu'à ce que par un merveilleux hasard, je rencontre deux professeurs de l'UQAR, de l'Université du Québec à Rimouski, qui étaient de passage en France, travaillaient avec un collègue à moi à l'époque qui a un peu facilité le lien, tu sais, qui a joué un peu les entremetteurs, pour qu'on se rende compte qu'on avait vraiment des intérêts en commun forts et qu'elles m'ont proposé de venir faire une année de postdoctorat au Québec. Et moi, j'avoue que c'est le Québec m'a toujours un peu attiré. Ça faisait partie des choses que j'avais envie de venir explorer. Et j'ai sauté sur l'occasion.
Puis t'es arrivé directement à Rimouski
dans ce postdoc-là.
Oui, directement. Je me suis même pas arrêté à Montréal. J'ai pris le bus directement de l'aéroport à Montréal, à Trudeau, pour arriver à Rimouski en plein milieu de la nuit, un 7 janvier, avec un bon moins 25 degrés. Assez solide. Je te dis que le souvenir est assez ancré profondément dans ma mémoire et dans ma peau même.
Je disais tantôt que tu es en charge de plusieurs projets, dont la Fab Région. Peux-tu nous en parler? C'est fascinant. Donc, pour placer les gens, le Bas-Saint-Laurent est maintenant la première Fab Région au Canada, ce qui n'est pas rien, mais peut-être que les gens ne savent pas ce que ça veut dire, ce que ça représente. Puis qu'il y a quand même une inspiration, peut-être lointaine, mais quand même, l'initiative des Fab Series qui sont de par le monde. J'aimerais ça que tu nous places ça un petit peu comme contexte.
Ouais, exactement. Ben, la Fab Région a été un heureux concours de circonstances. Au départ, moi, j'étais donc justement dans mon postdoctorat à l'Université du Québec à Rimouski, puis avec des collègues, on a organisé des rencontres sur la transition énergétique, dans lequel on avait invité des chercheurs, évidemment, mais aussi des citoyens impliqués, puis des élus. Et un des constats que moi, j'avais fait dans cette rencontre-là, c'est de dire qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé pour faire la transition, mais il n'y a pas beaucoup d'espace pour discuter entre chercheurs, élus, citoyens. Le monde avait le goût de se parler, mais il disait, on se parle très occasionnellement dans des projets, mais on n'a pas d'espace vraiment pour ça. C'est que moi, cette idée-là trottait dans ma tête, parce qu'au moment où je rencontre le LIO, commence à travailler avec le LIO, puis là, David et Racine, nos cordeaux, me disent, aurais-tu un projet que tu aurais envie de porter là? C'est que je commence à leur parler de cette affaire-là, en disant, justement, il y a quelque chose qui correspondait bien à l'ADN du LIO, c'est de faire travailler ensemble différentes catégories d'acteurs, dans l'idée qui pourrait ressembler à un laboratoire vivant, quelque chose comme ça.
Puis excuse-moi, on ne l'a pas précisé d'emblée, mais LIO, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le laboratoire d'innovation ouverte qui est à Rivière-du-Loup.
Oui, c'est ça, on est vraiment dans l'innovation ouverte, dans les laboratoires vivants, dans le multipartenarial, ce genre de choses. Donc, quand je commence à parler de cette idée-là, de projet, de dire, tu sais, il y a du monde chez nous qui a envie d'avoir un espace pour se parler autour de la transition. C'est là où Rachel m'a parlé du mouvement international Fab City, qui a émergé à partir du mouvement des Fab Labs au départ. Donc Fab Lab, atelier de fabrication numérique, coopératif, collaboratif, tout ça. Puis du monde assez brillant s'est dit, si on est capable de produire presque n'importe quoi, comme le dit Neil Gaischer-Fell, qui est un des pères des Fab Labs, qui dit, on peut construire presque n'importe quoi dans un Fab Lab. Si on met ça à l'échelle d'une ville complète, les villes pourraient être quasiment autonomes avec une série de Fab Labs plus ou moins spécialisés sur différentes dimensions, répartis à l'échelle de la ville dans différents quartiers. On pourrait imaginer des villes presque autonomes. Et donc, c'est Barcelone qui partent les premiers et qui disent, nous, on a envie de te lancer ce défi-là, penser l'autonomie de Barcelone à partir des Fab Labs et plein d'autres dimensions qui se sont construites après. Le MIT de Boston a embarqué avec ça et le maire de Barcelone de l'époque a lancé le défi au monde entier en disant « Venez rejoindre le réseau, devenez vous aussi des Fab City ou des Fab Régions ou des Fab Pays, soyons tous très bons. » Et on se donne un objectif commun qui est de se dire « En 2054, tout le monde a atteint au moins 50% d'autonomie dans nos villes, nos régions, nos pays. » C'est ça qui relie, tu vois, tous les territoires qui embarquent dans le mouvement, c'est cet objectif-là, 2054, au moins 50% d'autonomie.
Puis d'autonomie, on parle énergétique, nourriture, manufacturière, est-ce que c'est bien ça?
Ouais, ça c'est les trois que nous, on a choisis au Bas-Saint-Laurent, mais dans le réseau, il peut y avoir d'autres axes. L'idée, c'est que chacun va l'adapter à son territoire, ressources, à ses capacités. On n'aura pas la même autonomie ici qu'à Barcelone, qu'à Shenzhen, à Paris, inévitablement. Fait que nous, c'est ça, les trois qu'on a choisis au Bas-Saint-Laurent, c'est agriculture, énergie, manufacturier, que depuis, on a décliné en disant, on veut faire évoluer ces secteurs-là, mais plus fondamentalement, en fait, si on veut rentrer dans une logique très intersectorielle, ce qu'on vise, c'est pas que les secteurs changent. Ce qu'on vise, c'est de répondre à nos besoins essentiels. Donc, on veut pas être autonome sur l'agriculture, on va être autonome pour se nourrir. La différence, elle est considérable. Ça a l'air d'être un gossage de termes, mais ça l'est pas, parce que si on pense faire évoluer le secteur agricole, on loupe plein de dimensions, parce que pour se nourrir, on a besoin de produire des légumes, plein d'affaires. Mais pour faire ça, on a besoin d'énergie. On a besoin du secteur manufacturier qui nous produit des tracteurs, du matériel, des choses comme ça. C'est que l'idée de déplacer, on parle aujourd'hui de, au lieu de travailler sur des secteurs, on travaille sur des fonctions. L'approche par fonction, justement, elle permet d'avoir cette perspective très intersectorielle, de dire tous les secteurs contribuent à nous nourrir, à nous vêtir, à nous loger et à nous déplacer, qui sont les quatre besoins essentiels qu'on a retenus aujourd'hui. Et donc, on continue à travailler sur l'agriculture, l'énergie, le manufacturier, mais ces trois secteurs-là sont au service de chacune des fonctions vitales sur lesquels on veut se rendre plus autonome.
Et donc, les participants, les acteurs de chacun de ces secteurs-là sont donc inclus dans la réflexion de ce que ça représente aussi pour eux de tendre vers, d'avoir cet objectif-là, parce que c'est quand même colossal. Puis, pourquoi le Bas-Saint-Laurent est la première Fab-Région, donc au Canada, c'est que vraiment personne d'autre a osé réfléchir à ce modèle-là, inspiré de Fab-City. Est-ce que d'autres Fab-Régions dans le monde, en dehors d'une ville, par exemple?
Voilà, effectivement, le modèle a été pensé beaucoup à l'échelle des villes au départ, puis c'est vraiment plus récemment que les approches plus larges à l'échelle de régions ou de pays se développent. Aujourd'hui, il y en a très peu. Il y a deux régions en France. Occitanie, dans le sud-ouest de la France, et Rhône-Alpes-Auvergne, je pense que ça s'appelle maintenant, parce que les régions ont été un peu redéfinies. Il y a ces deux-là, il y a la péninsule du Yucatan au Mexique. Okay. C'est défini comme une Fab-Région, nous, au Bas-Saint-Laurent. C'est ça, l'idée de penser ça à une échelle un peu plus vaste que l'échelle des villes, fait son petit bout de chemin, mais est plus marginale encore aujourd'hui dans le réseau que de penser ça à l'échelle des villes elles-mêmes. Moi, j'aime cette approche dans l'idée que penser l'autonomie à l'échelle d'une ville, il y a un intérêt fort qui est qu'on a une grosse concentration de personnes, de besoins, de matières grises, de capacités de réflexion et tout ça. Par contre, ce qui nous manque, c'est des matières premières. Puis, les Fab Labs vont nous aider sur plein d'affaires, mais les Fab Labs ne peuvent pas encore créer de la terre, de l'eau, des arbres, de l'air.
C'est, malheureusement.
C'est ça, toutes les choses dont on ne peut pas se passer qui restent à la base de notre économie. On essaye beaucoup de se faire à croire qu'on va être capable de se passer des matières premières. Elles restent à la base de tout. Pour nous, l'idée d'aller à l'échelle d'une région, c'est de dire il faut justement qu'on arrive à connecter là où on a des ressources premières, des matières premières, des ressources naturelles, avec là où il y a les gens qui les consomment. Donc, penser à l'échelle d'une région, c'est penser ensemble les deux d'emblée. On est les premiers à l'avoir fait au Canada, effectivement. Il y a Montréal qui réfléchissait aussi depuis un bout, qui a juste mis une petite année de plus que nous à se déclarer, mais qui aujourd'hui Montréal est une Fab City, fait partie du mouvement international. Puis, au-delà des Fab City, j'ai envie de dire, il y a un mouvement plus général qui se passe. On le voit au Québec, on travaille avec beaucoup de monde, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler tantôt, mais il y a du monde qui agit dans le même sens que ce que nous on fait, simplement en allant prendre d'autres modèles, d'autres références, mais en fait on travaille tous dans le même sens. Donc on est les premiers à avoir utilisé ce modèle-là des Fab City au Canada, mais il y a d'autres mondes qui travaillent en parallèle puis qui travaillaient déjà avant nous aussi quand même, faut le dire.
Fait que ça reste des initiatives qui sont centrées sur l'humain, puisqu'on inclut dans la réflexion tous les acteurs de tout horizon qui sont impliqués dans tout ça. Quels sont les avantages de créer une Fab City ou une Fab Région?
Ben, oui, complètement, on est sur l'humain. On est à 100% sur de l'humain. Moi, je dis même que avant même justement d'utiliser le réseau des Fab Labs, c'est qui est fort chez nous et tout ça. Pour moi, le premier pas de construire une Fab Région, c'était de réunir les acteurs, de réunir les gens. Commencer à penser en termes de gouvernance, en termes d'espace de collaboration. Pour moi, la première brique quand on construit une Fab City ou une Fab Région, c'est ça d'abord et avant tout. Puis, l'avantage qu'on a trouvé à aller dans le réseau, c'est que le réseau Fab City, il y a du monde qui réfléchit à ces questions-là, de l'autonomie des villes, qui intègre beaucoup la dimension justement de l'humain et de la collaboration depuis déjà un bout. Donc, rentrer dans ce réseau, c'est profiter d'expériences qui sont menées, puis il y a beaucoup de gens vraiment hyper allumés là-dedans qui réfléchissent à ça depuis longtemps, donc autant profiter de cette expérience. C'est aussi un espace dans lequel on peut partager des outils, des savoirs, des expériences qui est intéressante, connecter avec le monde, avec l'idée quand même intéressante qu'il y a derrière le réseau des Fab Labs, de dire on va être capable de s'échanger un paquet d'informations avec des choses qui vont être expérimentées à l'autre bout du monde, puis qu'on va pouvoir se transmettre à travers des fichiers normés, être récupérés dans des Fab Labs et être reproduits à l'autre bout du monde sans avoir eu besoin de faire voyager du monde. C'est quand même fascinant comme idée, comme réseau auquel on se connecte dans le mouvement international. Puis, il y a cette idée de l'autonomie, moi, je trouve, qui est centrale dans le mouvement des femmes types, qui est intéressante parce que elle fédère énormément. Il y a des termes, tu sais, des fois, transition, tout le monde l'entend pas de la même manière, ça peut être un peu clivant. Quand on parle de décroissance et comme on parle de plus en plus aujourd'hui, c'est encore plus clivant. L'autonomie, c'est une notion qui fédère énormément. Pour moi, a été le principal intérêt de se dire, on rentre dans un mouvement auquel tout le monde adhère très facilement parce qu'on souhaite tous avoir plus d'autonomie à notre échelle locale.
Puis ça veut pas dire ne pas collaborer, c'est ça, je pense qu'il y a parfois des gens qui vont peut-être justement le mettre en opposition avec le partage, la collaboration, même le modèle économique en fait qu'on connaît, là, c'est d'adapter les choses. Puis donc pour une transition socio-écologique au final, là, on est là-dedans aussi, là.
Oui, complètement, complètement. Puis ta précision, elle est vraiment importante. L'autonomie, c'est pas l'autarcie.
C'est ça.
Souvent, on associe les deux. L'autarcie, c'est être enfermé sur toi-même. L'autonomie, c'est pas nécessairement ça. L'autonomie, ça peut être très ouvert. Puis nous, on prône une vision très ouverte de l'autonomie, très connectée justement sur le monde entier, mais dans lequel on fait circuler des informations au lieu de faire circuler des matières. Ça, c'est toute une différence. D'un point de vue écologique, c'est colossal comme différence. C'est pour ça aussi qu'on a adhéré très facilement à l'objectif de au moins 50% d'autonomie. On vise pas à tout produire chez nous parce qu'il y a plein d'affaires où ce serait pas écologique de produire ça localement.
Par exemple?
Ben, par exemple, faire pousser des tomates en plein hiver au Québec dans une serre qui est chauffée avec du pétrole, c'est pas écologique. Alors, la situation idéale, c'est de pas manger de tomates en hiver.
Ok.
Ça reste ça le plus écologique, ça reste ça qui contribue le plus à notre autonomie locale. Mais si on sait que tout le monde se passera pas de tomates en hiver dès demain, eh ben, il y a plusieurs situations. Alors là, on rentre dans des analyses de cycle de vie assez fines. Il y a dans la littérature plusieurs analyses comme ça qui montrent que des fois, il vaut mieux faire venir des tomates qui ont poussé en Californie, mais qui n'ont pas eu besoin d'être dans des serres qui ont été chauffées, qui ont poussé dans des conditions naturelles, avec un transport qui est bien pensé et bien optimisé, il peut y avoir moins d'impact en termes d'émissions de carbone que des tomates qui sont produites juste à côté de chez nous, mais dans des serres surchauffées avec du pétrole. Donc, c'est complexe.
C'est très complexe, oui.
Vraiment, mais moi, je reste dans l'idée que ce qu'il faut qu'on valorise quand même, c'est de dire la meilleure situation, c'est de ne pas consommer des choses qu'on n'est pas capable de produire chez nous. Puis on est capable d'en produire largement assez. Il y a plein de fruits et de légumes qui poussent juste à côté de chez nous de manière naturelle qu'on connaît pas. C'est que faisons l'effort d'aller redécouvrir notre environnement, d'aller se réapproprier plein de choses qui étaient déjà cultivées ou récoltées par les autochtones il y a des centaines et des centaines d'années et encore aujourd'hui et qui ont pas mal disparu de l'alimentation de base des Québécois. Moi, j'étais outré quand j'ai On a fait un petit portrait de l'autonomie au Bas-Saint-Laurent.
Okay.
J'étais outré de voir que le fruit le plus consommé, sais-tu ce que c'est aujourd'hui?
La banane.
Exactement.
Pour vrai?
C'est la banane, le fruit le plus consommé à l'échelle du Canada.
Au-delà des pommes qu'on produit. Ah, ça m'étonne.
Exactement.
Ah ouais.
Les pommes arrivent deuxième maintenant. Puis là où c'est encore plus fou, c'est que quand on remonte dans l'histoire, très récente, en fait, c'est au tournant des années 2000 que la banane est devenue plus consommée que la pomme. Jusqu'aux années 2000, c'était la pomme, le fruit le plus consommé, ce qui est quand même tout à fait logique. Mais c'est au tournant des années 2000 que la banane est passée au-dessus. Et quand les gens disent « Ouais, mais moi, me passer des bananes, c'est compliqué, tout ça. » Ouais, mais en fait,
c'est plutôt un besoin récent. Ouais, c'est ça.
Exactement, très récemment. Donc, on devrait être capable, avec un petit peu d'effort, de s'en défaire. Là encore, ce qu'on dit, c'est pas qu'il faut arrêter absolument de consommer des bananes. Ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait rééquilibrer un peu la proportion, consommer plus de pommes qu'on a dans notre environnement, qui poussent naturellement ici, qui fait en sorte que les bananes, ce soit un plaisir occasionnel, que ce soit pas le premier fruit qu'on consomme. Ça a quand même aucun bon sens, à mon avis.
Puis en lien avec ça, toi aussi, là, on est sur la transition socio-écologique, mais dans socio, je présume qu'on réfléchit aussi aux droits humains. Donc, quand on consomme plus et bien, je me souviens pas du nom de la compagnie, mais si moi j'ai envie de manger des bananes, j'achète des bananes bio. puis la compagnie qui les produit, je pense que c'est une compagnie américaine, sur le petit ruban qui les tient ensemble, il y a un paquet de petites citations sur tout ce qu'ils mettent en place pour prévenir l'exploitation des travailleurs. Parce qu'on peut pas se dissocier de ça, je présume. Si on veut penser transition socio-écologique, il faut penser aussi aux droits humains. Ça rend toute la chose encore un petit peu plus complexe, justement. Là. Il y a un autre niveau de réflexion là, qui n'est pas juste au niveau du produit.
Oh oui, complètement, complètement. C'est sûr que ça augmente le niveau de complexité, mais on n'a pas le choix que d'adresser ces questions-là. Si on veut penser un avenir qui est réellement durable, il faut que ce soit juste écologique, il faut que ce soit inclusif, il faut que ce soit équitable, il faut que ce soit accessible à tout le monde, définitivement. C'est une question qui est peut-être un peu moins adressée aujourd'hui, dans lequel tout le monde a conscience dans le milieu de la transition socio-écologique, mais qui est peut-être un peu moins directement adressée. Mais c'est une réalité qui est hyper importante. Puis moi, un des super exemples que j'ai eu, sur lequel on a été amené à travailler récemment, c'est sur la question de se vêtir, sur la question de nos vêtements. On parle pas tant que ça de l'impact de la fast fashion, on consomme énormément de vêtements. Puis, il y a pas longtemps, il y a le Carrefour International Bas-Laurentien pour l'engagement social, le CIBLE, qui a organisé une rencontre dans laquelle ils ont fait venir une militante pour les droits des travailleurs au Bangladesh, qui a travaillé dans l'industrie du textile depuis toute petite, tout ça, puis qui venait nous expliquer à quel point, parce qu'on a délocalisé nos économies du Nord dans des pays comme le Bangladesh, dans des pays d'Afrique, on a complètement dérégulé leur économie qui aujourd'hui sont largement basées là-dessus, complètement dépendants, dans des conditions humaines qui sont catastrophiques, désastreuses, qui sont de l'exploitation, ni plus ni moins.
C'est de l'esclavage moderne, là. Les gens veulent pas utiliser le terme, mais ce sera pareil, là.
Complètement. Puis, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la discussion qu'on a eue avec cette personne-là, c'est qu'elle nous disait, on comprend votre volonté de faire l'autonomie chez vous aujourd'hui. Le problème, c'est que, mettons qu'on relocalise toutes nos capacités de production ici, eh ben, on va complètement déstructurer leur économie, que nous-mêmes, on a contribué à resserrer sur un seul type d'industrie. Et donc, aujourd'hui, si on fait ça, on les abandonne littéralement dans une situation qu'on a largement contribué à créer. Donc, elle nous a amené à réfléchir justement en disant l'autonomie doit aussi se penser dans une logique de solidarité internationale, en prenant en compte les impacts sociaux et humains de ce que ça ferait. Donc, l'idée, c'est de dire, on veut pas maintenir le système en l'état parce qu'il est définitivement pas viable, ni écologiquement, ni économiquement, ni socialement. Mais on peut pas se retirer du jour au lendemain de continuer à sommer des vêtements là-bas parce que sinon on fait s'effondrer leur économie. Donc, la question c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble à gagner notre autonomie des deux bords en même temps? Donc, comment est-ce qu'on fait une transition là aussi à dire on n'arrête pas du jour au lendemain d'acheter des vêtements au Bangladesh? Par contre, on favorise le fait de faire émerger des meilleures conditions chez eux. On accepte de payer nos vêtements un peu plus cher pour qu'ils aient des conditions un peu plus décentes, pour qu'ils puissent restructurer une économie plus diversifiée et en même temps que progressivement, on ramène nos capacités de production chez nous. Mais les deux doivent se faire vraiment ensemble. Je trouve cet exemple-là, il est parlant pour moi parce que il montre bien toute la complexité du problème, mais à côté duquel on peut pas passer parce que sinon, on va résoudre des problèmes écologiques, mais on va droit dans le mur parce qu'on va laisser la moitié de la population mondiale sur le carreau. Et quand je dis la moitié, je pense que, à mon avis, je sous-estime.
C'est super intéressant parce que c'est vrai que je me demande si on n'a pas le réflexe de, pour ceux qui connaissent pas nécessairement le sujet là en profondeur, on pense transition socio-écologique, puis on pense systématiquement bouffe, pollution, OGM, mais on pense pas à tout ce que tu viens d'écrire qui est vraiment frappant, en fait, comme problématique puis complexité. Puis la question vers laquelle j'allais, tu commences à y répondre, là, mais c'est pourquoi c'est important? Fait que tu sais, pourquoi c'est important Fabre-Région? Pourquoi c'est important la transition socio-écologique? Quand tu es devant des gens qui connaissent vraiment pas ça, tu réponds quoi à ça?
Alors, moi, je suis pas la meilleure personne pour soigner l'éco-anxiété des autres. Parce que j'ai une vision parfois assez noire, mais je pense assez réaliste de notre situation. Le pourquoi, pour moi, il est assez simple. Il est aujourd'hui, on va droit dans le mur. Dans le sens où on a des systèmes socio-économiques qui ne fonctionnent pas, qui sont profondément injustes, déséquilibrés, qui exploitent nos ressources, qui nous amène littéralement droit dans le mur. On parle de plus en plus aujourd'hui de collapsologie, de théorie de l'effondrement, l'idée de dire que nos sociétés pourraient littéralement s'effondrer si on continue comme ça. Il me semble que ça, c'est une bonne raison. Voilà.
Mais on aime mieux se mettre la tête dans ça parce qu'on connaît pas la vie autrement. Puis ça fait, depuis la révolution industrielle, qu'on roule de même. Je suis la première à faire des cours. Mais
oui.
Parce qu'on est collègues. L'autre jour, tu nous as fait une présentation, puis c'était le fun parce que, oui, il y a ça, mais t'es vite passé sur « cependant
mm-hmm. ».
Tu sais, on n'est pas obligé d'être dans la détresse et on peut se mettre en action, mais ça exige de changer tout notre mindset, toutes nos habitudes,
exact.
Mais c'est faisable.
Oui, et puis c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on reste pas sur un constat de « tout va mal, puis on va s'écraser ». C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être conscient. Parce qu'il faut être conscient de l'urgence d'agir, mais il faut aussi être conscient qu'aujourd'hui, des solutions, il y en a. Puis moi, ce qui me rassure, ce qui pour le coup soigne mon éco-anxiété, c'est quand on fait des ateliers de travail avec nos partenaires, avec les citoyens, avec ben du monde, moi, je suis tout le temps halluciné. On l'a fait encore vendredi passé. On a lancé une question dans l'univers. Comment est-ce qu'on peut mieux embarquer les élus pour qu'ils participent de manière plus engagé et radical dans la transition. Nous, on a de la chance d'avoir quand même des élus au Bas-Saint-Laurent qui sont déjà bien impliqués, mais c'est pas le cas partout, puis il faut les impliquer encore plus. J'étais vraiment halluciné de voir comment, en une heure, on était capable de faire émerger des solutions innovantes, créatives, réalistes, probables. Ça me fait dire que les solutions, elles sont là, elles existent, puis celles qui nous manquent, on va pas avoir de difficulté à les créer. L'enjeu, par contre, c'est d'être conscient, justement, de dire, ces solutions-là, faut pas qu'elles restent sur le papier. Faut aller les mettre en place dans la réalité. Faut aller implémenter la réalité, puis de manière rapide et radicale. Mais on a tout pour s'en sortir. Moi, c'est ça vraiment qui me rassure régulièrement, c'est qu'on a tout pour s'en sortir. Toutes les clés, on les a. Par contre, faut y aller. Maintenant, faut arrêter de parler au futur. Faut arrêter de dire, il faudra un jour que... Non, non. Il faut aujourd'hui qu'on commence dès maintenant à mettre en place toutes ces solutions-là.
Puis, il faut que les pouvoirs adhèrent. C'est ça l'affaire aussi, là. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas juste faire de la une campagne de sensibilisation. Faut agir. Ça nous amène à faire un beau lien avec un événement qui a eu lieu la semaine dernière. Au moment où on enregistre, on est le 21 juin 2023. Et la semaine passée à Rivière-du-Loup a eu lieu la deuxième édition de la balade de la transition socio-écologique. Deuxième édition. Et ça fait du pot sur ce que tu disais un petit peu plus tôt, qu'il n'y a pas juste le Bas-Saint-Laurent, puis il n'y a pas juste le modèle Fab-Région qui s'intéresse à tout ça. Il y a d'autres régions, il y a d'autres modèles. Puis ça, c'est un beau moment de réunir plusieurs régions qui se questionnent sur comment on peut arriver à faire cette transition-là. Tu peux nous en parler un petit peu?
Ouais, c'est ça. Moi, ça fait partie vraiment des moments que je trouve extraordinaires, qui font vraiment du bien d'aller parler avec d'autres mondes qui font ça aussi dans leur région, dans leur ville, un peu partout au Québec. Là, en l'occurrence, il y a 5 organismes de 5 régions différentes et qui sont à l'origine de ça. C'est le collectif Territoire à Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue qui nous a invités l'an passé pour la première fois à dire « Hey, voulez-vous venir chez nous puis venir nous partager ce que vous faites dans vos régions, dans vos villes, c'est pour qu'on se nourrisse ensemble ?» Parce qu'ils avaient besoin d'un petit coup de pouce aussi justement pour mobiliser leurs acteurs chez eux, leurs partenaires et tout ça. C'est que il y a le Grand Dialogue du Saguenay qui a répondu à l'appel au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a la Réserve mondiale de biosphère sur la côte nord. Il y a le CIRAD en Gaspésie qui est un centre collégial de transfert technologique comme nous autres au LIO. Puis la Fab Région du Bas-Saint-Laurent.
Puis les gens de l'Acadie.
Oui, et effectivement, imaginons la péninsule acadienne autrement au nord du Nouveau-Brunswick. Dans l'Acadie. Exact, t'as bien raison. Puis, on s'est retrouvés l'an passé. On a trouvé ça tellement le fun d'avoir des espaces comme ça, tu sais, pour échanger, pour partager, pour se polliniser mutuellement, croiser nos expériences. On s'est dit, il faut qu'on continue ça. Et donc, on a levé la main pour dire, ben, nous, on propose une deuxième édition chez nous, au Bas-Saint-Laurent. Et donc, c'est ça, comme je te disais, qui a eu lieu la semaine passée.
Pour avoir été impliqué dans cet événement-là, mais ne connaissant pas beaucoup ce sujet-là, j'étais vraiment, je veux dire, émue par le degré d'engagement que les gens avaient dans leur communauté par rapport à ces réflexions-là, par rapport à ces actions-là. C'est ce qui revenait beaucoup dans les ateliers. Faut passer à l'action, faut passer à l'action, faut passer à l'action. Puis quand tu vois ça, tu dis, mon Dieu, oui, il faut que ça se pollinise à une plus grande échelle, faut que les gens le comprennent mieux, s'y intéressent davantage. C'est un petit peu ça avec le podcast Entrevue aujourd'hui, c'est que Si on a un expert, parlons-en, démystifions la chose, puis allons voir dans ta communauté, que tu sois en ville ou que tu sois en région, en banlieue, en campagne. Il y a des groupes qui pensent à ça. Il faut aussi simplement les trouver, puis aller s'informer, participer, puis tranquillement, ben tu fais ton bout de chemin, puis tu peux faire avancer ces causes-là qui sont essentielles, là.
Oui, tout le monde peut contribuer à son niveau, définitivement. Tout le monde a un rôle à jouer, a une contribution qui a pas besoin d'être colossal, d'être un engagement hyper fort de tous
ou
les
même
jours,
militant. Ça se peut-tu que les gens souvent vont faire oui. l'équation entre ces sujets-là puis le militantisme? Mais il y a aussi, à mi-chemin, des gens qui trouvent juste ça intéressant dans leur quartier de pouvoir faire émerger ces actions-là, là.
Oui, c'est ça. Puis effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'être un militant écologiste pour avoir conscience qu'il faut agir. Il faut surtout qu'on sente petit à petit, progressivement, nos modes de vie, un peu au quotidien. Chacun le prenne un peu à son échelle, puis en fonction de sa capacité.
Dans ses choix de consommation.
C'est ça. Je disais tout à l'heure à quel point t'étais émue de voir le monde qui était engagé, qui était motivé, mais moi, j'ai envie de dire à tes auditeurs, allez parler autour de vous. Vous connaissez forcément quelqu'un qui travaille plus ou moins dans ce domaine ou qui est vraiment renseigné. Je connais personne qui a pris le temps de se renseigner et qui n'a pas un sentiment d'urgence d'agir aujourd'hui.
Ouais.
C'est dans le sens où, à partir du moment où tu prends le temps de lire, de te renseigner sur le sujet, tu te rends conscience inévitablement de, on n'a plus le choix réellement. T'sais, il faut qu'on y aille. On parle souvent dans le milieu de la transition de, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle on va avoir une transition, dans tous les cas, dans le sens où on va devoir changer de modèle de société, parce que celui dans lequel on est, il est plus viable. La question, c'est pas est-ce qu'on doit changer, c'est est-ce qu'on va faire une transition qui est subie ou une transition qui est choisie. Aujourd'hui, on a encore le choix de dire accompagnons le mouvement qui est engagé déjà, qui fait que nos sociétés doivent se transformer, essayons de l'orienter vers le mieux en imaginant un futur meilleur que la réalité dans laquelle on est aujourd'hui, puis travaillons pour que ce futur-là, il advienne. Si on fait pas ça, on va avoir ce qu'on appelle une transition subie, c'est-à-dire que les éléments vont s'occuper de faire évoluer nos sociétés sans nous. Et ça va se faire beaucoup plus dans le drame, ça va se faire en laissant encore plus à la marge ceux qui sont déjà fragilisés aujourd'hui, qui n'auront pas les moyens de s'adapter. Fait que cette image-là, moi, je l'aime parce que elle résume bien c'est quoi aujourd'hui notre réalité. On peut choisir de créer un monde meilleur ou on peut choisir de laisser arriver ce qui est en train d'arriver. Puis on a bien trop d'exemples en ce moment pour dire que ça va pas être un beau monde qui nous attend si on laisse faire comme ça.
Puis même s'il y a une urgence de faire cette transition-là, je pense que pour peut-être gérer l'éco-anxiété ou cette vague-là de par quoi je commence, c'est par des petites choses aussi. Tu sais, c'est se documenter, c'est comme tu dis, d'aller voir dans notre entourage qui peut nous aider à le comprendre, à le mettre en place, puis c'est par petits pas. Puis je pense que souvent, ce qui peut effrayer les gens, c'est cette idée de faire un 180 du jour au lendemain, mais ça, c'est pas viable pour personne non plus, là. À moins que ce soit dans une transition subie où là, ben ça va être ça puis ça va être tout. Mais si on y a moins 5, mais qu'on a encore le temps de faire une transition choisie, ben allons-y avec les choix de consommation, ne serait-ce que ça, de mieux comprendre d'où viennent les choses. Est-ce qu'on en a besoin ou pas?
Oh oui, t'as bien raison. Il faut travailler à tous les niveaux. Il y a du monde comme nous qui s'occupons de travailler au niveau des structures, des systèmes, au niveau politique et tout ça. Mais après, chacun, on n'est pas obligé d'être tous rendus là. Chacun peut travailler à son échelle. Puis, tu sais, moi, je dirais, il y a vraiment des gestes simples et qui font une différence. Pendant longtemps, tes auditeurs l'auront reconnu, je viens de France. Pendant longtemps, en France, les écolos niaisaient le monde avec l'idée des petits gestes, tu sais, de dire, il faut couper l'eau du robinet quand on brosse les dents. Comme c'est ça qui allait changer la planète. Clairement, non. C'est pas ça qui changera la planète. Par contre, des vrais petits gestes qui font la différence, il y en a. Et pour moi, le principal, c'est exactement comme tu disais, se poser la question au moment où on veut consommer quelque chose. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette affaire-là? Mm-hmm. C'est comme on entend de plus en plus avec notre chère Thierry McQueen au Québec. j'en ai plus vraiment besoin. Ça, c'est une vraie question qui, vu progressivement, se dire, je vais réduire un petit peu mes besoins, puis le recentrer sur des choses beaucoup plus essentielles, remplacer des consommations matérielles par des relations humaines, c'est m'enrichir de relations humaines plutôt que de m'enrichir d'objets. Ça demande pas d'argent, ça demande pas des si gros efforts, ça demande petit à petit de prendre conscience des enjeux, de progressivement se passer de quelques affaires régulièrement. Ça, c'est à la portée de tout le monde et ça va vraiment faire une différence au final.
Puis je trouve ça intéressant parce que ça fait écho à une statistique plutôt alarmante quand même. Là. Je pense que c'était l'année dernière qui était recensé qu'à Montréal, 43 % de la population vit seule. Tu sais, il y a un lien à faire entre l'état lamentable dans lequel se retrouve maintenant notre environnement par nos choix, mais l'état lamentable dans lequel nos populations, nos relations, nos réseaux se trouvent, et au niveau de la santé mentale aussi, là, ce que ça veut dire de l'isolement, là, surtout après une pandémie. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui peut être joint dans des efforts de collaboratifs, de découvertes, puis qui peut aussi régler plusieurs problèmes d'un seul... avec une seule action, je pense, là.
Ouais, j'aime beaucoup cette vision-là, cette manière de penser. Tu sais. Puis, ce que tu dis sur la solitude, moi, c'est clair, ça me frappe vraiment beaucoup. Puis, ça me fait penser à des travaux super beaux. Je ne recoupe pas le nom des auteurs, mais on pourra le préciser plus tard. Mais dans justement les travaux sur la collapsologie, il y a du monde qui dit l'idée de se préparer à nos sociétés s'effondre, mettons. On imagine. C'est une possibilité qui existe aujourd'hui, qui est réelle, qui ne va pas nécessairement arriver, mais qui existe. Ce qu'on connaît aujourd'hui, les gens préparent entre guillemets à ça, c'est les gens qui créent des bunkers, tu sais, avec plein de cannes de soupe de tomates, puis souvent des grosses armes aussi pour se préparer, tu
se
vois,
défendre,
à recevoir les gens,
ouais.
Pour se défendre, tu sais. Ils expliquent hyper bien comment est-ce que cette idée-là, elle a aucun sens. Parce qu'en réalité, se préparer à l'effondrement de nos sociétés à l'échelle individuelle, ça va juste rallonger ton agonie. Dans le sens où, oui, tu vas pouvoir survivre un petit bout, mais tu vas pas survivre très longtemps, tu vas surtout survivre tout seul. C'est quoi le fun de passer des mois et des mois à manger les cannes de tomates tout seul enfermé au fond de ton bunker, tout seul ou au milieu avec 3 personnes de ta famille? Ça n'a aucun sens. C'est que eux, ce qu'ils disent, c'est le meilleur moyen de se préparer à l'après, c'est de recréer du collectif, c'est de recréer des solidarités qui vont faire qu'on va vraiment devenir plus fort, qu'on va être capable de s'adapter. Donc en fait, les gens qui auraient peur justement d'une possibilité d'effondrement et qui voudraient s'y préparer, la meilleure chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est aller parler à vos voisins, aller vous faire des réseaux dans votre quartier, aller recréer de la solidarité qui fait que si un jour il y a un problème, bah, vous allez pouvoir aller taper à la porte d'à côté en disant « Hey, on peut-tu ?» faire ça ensemble, on peut tous repartir un jardin ensemble, qui fait qu'on va être capable de se nourrir. Faire un jardin tout seul, c'est compliqué. Faire un jardin à 10 dans un quartier, c'est beaucoup plus facile. Et moi, j'adore cette idée-là, c'est de dire que la réponse aujourd'hui, elle est pas technologique, elle est pas individuelle, elle est collective et elle repose sur le fait de créer des solidarités.
C'est le fun parce que ça fait écho à ce qu'un des participants à la balade la semaine dernière, je pense que c'est Martin Poirier, on mangeait puis ils discutaient de ça puis ça m'avait frappé. Pas que c'était la première fois que je l'entendais, mais c'était la première fois que j'entendais ça de cette façon-là puis c'est vraiment venu me chercher. Puis il racontait, je pense que Martin est en charge de Place aux jeunes à Rimouski, puis il expliquait à un autre participant que ce qui explique aux gens qui arrivent nouvellement à Rimouski, peu importe leur origine, là, c'est implique-toi dans le bénévolat, tu vas rencontrer du monde. Donc, tu es en train de retisser ton réseau social et ça contribue justement à faire émerger ces maillages-là. Je ne sais pas pourquoi, j'avais jamais fait le lien entre « Ah, mon Dieu, c'est vrai que c'est tellement une bonne affaire pour contrer la solitude. » Mon esprit allait systématiquement dans s'engager communautairement, mais j'avais jamais fait le lien avec « Contrôle la solitude » avec l'engagement bénévole. Puis je me disais « Mon Dieu, mais c'est tellement vrai. » Puis ce que les gens rebondissaient en disant « Ben oui, parce que un autre participant dans sa région disait « Ben c'est comme ça qu'on avait quelqu'un qui débarquait, qu'un nouveau travailleur, puis qui avait trouvé sa gardienne, qui avait trouvé la personne pour marcher son chien. » Et c'était par le bénévolat. Fait que je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose de précieux à aller chercher comme solution dans ce réseau-là, dans cette façon de faire-là.
Hey, tellement, tellement. Moi, c'est toute mon histoire au Québec.
Ben oui.
Je te racontais tout à l'heure comment est-ce que je suis arrivé parce que j'ai rencontré 2 personnes en France qui m'ont amené là. Moi, je connaissais personne au Québec.
Non.
Pas de famille, pas d'amis, pas de contact. Le seul truc que j'ai regardé avant de venir à Rimouski, c'est y a-tu une ligue de roller derby?
Voilà.
Moi, je faisais de roller derby en France. Je me suis dit, s'il y a une ligue de roller derby à Rimouski, je vais être capable de rencontrer du monde. Puis, c'est ça qui s'est passé aujourd'hui parmi mes meilleurs amis encore aujourd'hui. C'est du monde que j'ai rencontré là. qui je me suis impliqué dans un groupement d'achat, tu sais, pour parce que ça fait du sens pour mes valeurs, mais aussi parce que c'était un moyen de rencontrer du monde. Puis aujourd'hui, ma blonde, c'est là que je l'ai rencontrée. Tu sais, on se recrée vraiment une vie en s'impliquant dans le bénévolat. Je trouve que ça fait 2000% de sens.
Tu es aussi en charge du projet Métalab. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que la semaine passée, il y a eu des belles annonces autour de ce projet-là aussi, lors de la balade. Peux-tu nous expliquer de quelle façon ça vient s'arrimer avec tout ce qu'on a discuté pour l'instant, que ce soit la transition, que ce soit la Fab Région?
Oui, bien effectivement, nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille sur la Fab Région. Ben, un peu plus, ça fait 3 ans qu'on a des financements vraiment pour le faire, mais le projet a démarré il y a 4 ans quasiment. Puis, comme on disait, l'an passé, on a été à Rouyn-Noranda et on a rencontré ben du monde qui faisait ça aussi dans d'autres régions. On a eu l'envie de se connecter parce que, ben, tu sais, on veut pas être les seuls à travailler dans notre région. Mm-hmm. On veut partager. C'est le fun d'échanger avec l'autre bout du monde, d'être connecté avec Barcelone et Amsterdam, mais on voulait être connecté aussi avec les régions autour de chez nous. C'est que dans l'idée de dire comment est-ce qu'on continue à travailler ensemble avec les régions du Québec proches de nous ou du Nouveau-Brunswick, il y a eu cette idée-là de faire ce qu'on appelle aujourd'hui le Métalab des régions en transition, qui est en gros, pour le dire de manière simple, comment est-ce qu'on se crée une structure organisationnelle et de gouvernance pour maintenir des liens, pour créer et maintenir des liens forts entre les différentes initiatives. Puis comment est-ce que dans cet espace-là, on va à la fois chercher des solutions ensemble aux problèmes qui dépassent nos cadres régionaux. C'est, on travaille tous dans le même sens globalement, donc on retrouve rapidement tous plus ou moins les mêmes problèmes, qui sont des problèmes de réglementation, qui sont des problèmes d'orientation politique, qui sont des problèmes de loi, de financement, d'accès à des financements, des choses comme ça, qu'on peut pas régler à l'échelle d'une région ou d'une ville. Donc, dans le Métalab, il y a cette idée-là de se dire si on se met ensemble pour adresser ces problématiques, on va avoir plus de chances de trouver des solutions et on va avoir plus de chances d'aller adresser ces problèmes à une échelle provinciale, voire fédérale. Donc, c'est vraiment l'idée au cœur du Métalab d'aller se donner cet espace-là pour continuer à travailler ensemble, partager d'expériences, puis trouver des solutions à des problèmes qu'on serait pas capable de résoudre à l'échelle de nos régions. Mais avec cette idée qu'on veut absolument préserver les spécificités de chacune des régions. Mm-hmm. Le but, c'est pas de s'uniformiser dans une structure commune.
Mais les besoins sont pas nécessairement les mêmes. Fait que c'est difficile à faire de toute façon, c'est ça.
Exactement. Chaque région a ses particularités, ouais, a ses acteurs, ses forces, ses faiblesses, ses atouts. C'est qu'on veut vraiment respecter ça, mais avoir une structure qui va nous permettre de nous connecter, de nous relier, mais qui va un peu au-delà du réseau, c'est sans rentrer dans trop de terminologie. L'idée d'un Métalab qui n'existe pas vraiment encore, qui est surtout des références dans la littérature, puis quelques expériences à droite,
oui, parce
à gauche.
C'est tout nouveau, c'est ça, là. C'est vraiment de l'expérimentation de système, en fait, là.
Exactement. On est pleinement dans de l'innovation de système, puis justement dans cette idée de comment est-ce qu'on trouve le compromis entre pas être simplement un réseau d'identités toutes séparées et complètement autonomes, sans devenir quelque chose qui va être complètement intégrateur et dans lequel les organismes risquent de se dissoudre. On cherche quelque chose qui est, pour moi, dans le compromis organisationnel entre les deux et qui est un peu à créer, d'autant plus que, encore une fois, ce genre d'innovation-là, elle part souvent des villes, elle part souvent d'espaces très urbains, très denses, et elles peuvent pas s'appliquer de manière littérale dans des régions plus rurales, plus périphériques, comme celles avec lesquelles on travaille dans le Métalab. Donc, il y a aussi cette idée de comment est-ce qu'on ajuste, comment est-ce qu'on recrée un modèle qui nous est propre, tu sais, qui est pensé par les régions, pour les régions. Ça, c'est quelque chose qui me tient, moi, vraiment beaucoup à cœur dans le Métalab aussi, puis qui tient à cœur à toutes les organisations de base, parce que dans les premiers échanges qu'on a eus justement la semaine passée, il y avait vraiment cette idée de dire une des choses qui nous définit dans le réseau, c'est qu'on est des régions rurales et périphériques et qu'on veut maintenir ça. On est prêt à accueillir du nouveau monde, puis on a vraiment l'idée d'accueillir des nouvelles régions, des nouveaux territoires, mais on va aller vraiment regarder du côté des territoires plus ruraux.
Puis c'est clairement une initiative qui inspire des gens, puisque donc l'annonce que vous avez faite vendredi par rapport au Métalab.
Ouais, c'est ça. On a eu un financement du ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie maintenant pour 3 ans. Qui nous permet justement d'avoir un peu de ressources, que des belles personnes comme toi, par exemple, comme notre collègue Laure. On a une belle petite équipe qui se forme, là, qui va être là pour imaginer, faire vivre ça, avec une visée déjà pour 3 ans. On s'est assuré des financements pour 3 ans, mais avec l'idée qu'on va pouvoir aller plus loin que ça aussi.
D'expérimenter tout ça, de mettre les bases, de et tout ça en co-création, là, carrément, avec les gens qui représentent les régions dont qu'on a nommées tantôt, là.
Un paquet complètement.
Ouais, d'acteurs, là, qui étaient déjà
moi, j'aime ça, tu vois, quand tout le monde déprosait, ça a été un peu la même logique dans Fab Région, de dire, allons chercher un concept qui existe, mais qui est pas super bien défini, qui est pas ciblé complet, tu sais, qui a de la marge de manœuvre. Et prenons-le et allons le mettre dans un nouveau contexte. Mmh. Moi, c'est vraiment le genre de situation que j'adore parce que ça veut dire que on peut s'appuyer sur quelque chose, sur de l'expérience, sur des gens qui ont déjà travaillé, mais on se donne une marge de liberté pour l'adapter puis le mettre à notre patte, à notre façon. C'était ça avec Fab City qu'on prend, qui a déjà travaillé dans un contexte urbain loin de chez nous. On s'appuie là-dessus, puis on vient l'implanter dans une région, donc à une autre échelle, puis très loin de son contexte d'origine. Cet espace-là entre les deux, pour moi, c'est la marque de créativité qu'on se donne en tant que chargé de projet, en tant qu'innovateur, en tant que chercheur. C'est la même chose qu'on fait sur le Metalab. On prend un concept qui a été testé une fois ou deux dans des contextes très éloignés de chez nous, puis on vient le prendre.
Dis-moi, qu'est-ce que tu imagines pour l'avenir? C'est quoi ton rêve autour de tout ce que tu... déjà mis en place, sur lesquels tu travailles, mais tu te projettes dans quoi?
Dans un avenir très lointain, je me projette à ne plus avoir de métier. Parce que la question sera réglée, fait qu'on aura
résolu.
Plus de gens comme moi, puis je pourrai enfin prendre ma retraite tranquillement.
Faire du roller derby.
exactement, ouais. À plus court terme, mettons, le truc dont je rêve vraiment beaucoup en ce moment, ce serait que on ait enfin des politiques avec des visions globales et intégrées qui nous mettent une petite tape dans le dos puis qui nous donnent un souffle. Tu sais, aujourd'hui, on est encore beaucoup à construire contre, tu sais, à lutter un peu, à aller chercher des espaces, des marges de manœuvre dans des systèmes qui sont pas du tout faits pour penser une transition socio-écologique. Ça, c'est épuisant. Tu sais, ça demande énormément d'énergie, d'efforts. Fait que mon rêve aujourd'hui, ce serait de travailler dans un cadre structurel qui est aidant, qui nous pousse, avec du monde qui nous dit « Allez-y, on a besoin de vous », plutôt que de passer notre temps à dire « Hey, écoutez ce qu'on a dit, c'est vraiment important, c'est ça ». Sortir des logiques de « Ok, il faut que j'aille monter 4 demandes de subventions séparées parce qu'il y en a qui vont me dire « Hey, moi, je finance que le volet écologique. Mm. »« Hey, moi, je finance que le volet social. »« Moi, je finance que le volet systémique. »« Moi, je finance que le volet action concrète locale. » Nous, on veut faire tout ça. C'est qu'il faut qu'on multiplie des demandes, puis qu'on aille expliquer aux gens. C'est on a une pensée complexe, on a une action complexe et on n'a pas de politique, de financement et de système complexe dans lequel on peut s'intégrer pour
assister.
C'est très pratico-pratique comme rêve d'une certaine manière, mais ça ferait toute la différence dans notre job aujourd'hui.
Absolument. Puis, tu sais, il ne faut pas se leurrer. Là, ceux qui vont hériter du problème, c'est une autre génération. Ils sont tout petits aujourd'hui. S'il y en a qui sont ados, qui écoutent ça, qui sont jeunes adultes, qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Bon courage, soyez forts. Mm-hmm. Non, mais en réalité, ils se préparent un monde qui va pas être facile, je pense, pour eux, très honnêtement, très sincèrement. Mais moi, je travaille pour leur laisser un monde qui va être stimulant quand même, dans le sens où ils vont avoir beaucoup de défis à relever, c'est sûr, parce qu'on les aura pas tous réglés loin de là. Mais s'accrocher au fait qu'il y a de l'espoir, toujours, puis qu'il va toujours y en avoir, et s'accrocher au fait que c'est dans le collectif que ça va se passer. Mm-hmm. C'est l'idée justement de ne surtout pas se replier sur soi, se renfermer dans son éco-anxiété qui ne mène à rien, qui est juste se faire du mal. C'est rester ouvert, rester avec l'envie de travailler avec les autres. C'est là-dedans justement qu'on va pouvoir entretenir de l'espoir puis la possibilité de trouver des solutions.
C'est drôle. Récemment, je me disais qu'en fait, il y a peut-être une espèce de shift qui va devoir se produire pour ceux qui sont, mettons... génération X, Y, là, qui va falloir être au service de ces jeunes-là. Je pense que c'est quelque chose qui a été brisé avec le temps, dans l'histoire, là, dans les habitudes qui ont été prises où une génération, that's it, faisait leur truc, puis je dis pas qu'il y a pas des gens qui s'impliquaient, là, mais culturellement, disons, je pense qu'il va y avoir un mindset qui va devoir être changé dans ce lien-là entre les générations, où moi, ma position... c'est, même si j'ai pas encore 50 ans, mais quand même, ma job, c'est de repasser ce que j'ai appris à plus jeunes s'ils veulent bien le recevoir. Mais je pense que c'est vraiment dans... va falloir servir, va falloir que ce qu'on a appris serve aux prochaines générations parce qu'ils pourront pas tout faire ça tout seuls. Je pense que le maillage au-delà, tu sais, de ton réseau, ton quartier, il va devoir être transgénérationnel aussi.
Complètement. Ouais. Puis, je trouve que on le voit petit à petit, tu sais, qu'on essaye de donner des espaces à des jeunes, à de la jeunesse comme ça. On voit qu'il y en a qui le prennent, même si on leur donne pas, puis tant mieux, tu sais.
Ouais.
Je veux dire, c'est génial. Moi, un des super beaux moments que j'ai vécu la semaine passée dans la balade en transition, ça a été justement de travailler avec des étudiants que j'ai eus en cours à l'Université du Québec à Rimouski pour une partie, c'est à qui j'ai essayé de transmettre une partie de mon savoir, et à qui, la semaine passée, on avait donné une espèce de carte blanche de dire, venez assister à nos ateliers, venez assister à nos rencontres, prenez des notes, puis faites-nous un retour éditorial, avec votre point de vue sur qu'est-ce que vous avez entendu. Brassez-nous s'il y a besoin de nous brasser. J'ai essayé justement de pas trop les influencer dans leur regard. J'ai trouvé ça fantastique ce qu'ils nous ont apporté, tu sais. Réussir à décaler un peu le regard, réussir à nous faire des miroirs, tu sais, à nous renvoyer un peu à nous-mêmes, à nos limites. Nous donner de l'espoir aussi, justement, en nous montrant que eux-mêmes, ils y croient, puis que faut qu'on travaille pour eux, justement, pour leur laisser une chance de mener leur combat. Et ça, ouais, j'ai vraiment adoré ça. Puis justement, c'est exactement ce que tu disais, le fait de dire, moi, j'ai transmis un petit bout de mon savoir, puis aujourd'hui, ils me reviennent, puis ils m'apprennent aussi des choses en retour.
Absolument.
Puis ils participent à venir m'énergiser. J'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Ça a été un des plus beaux moments, honnêtement, pour moi, de la semaine passée, de voir ces étudiants-là et le travail qu'ils ont fait. C'était extraordinaire.
On pourrait se dire, on fait tout en notre pouvoir pour laisser l'éco-anxiété de côté, en se retournant vers les gens, en s'ouvrant, en créant des nouveaux liens. Puis je pense toujours dans la perspective qu'on peut apprendre des autres, mais les autres peuvent toujours apprendre de nous aussi. Ça, c'est parfois le bout que les gens oublient, là. tout le monde a quelque chose à apprendre de tout le monde. Là.
Oui, faut qu'on s'assume dans nos savoirs. On a tous des savoirs d'usagers.
Bien sûr.
C'est ne serait-ce que de dire, on habite ce monde-là, on a tous un rapport avec lui, avec la nature, avec notre environnement. C'est qu'on a tous une connaissance d'une certaine manière qui va être utile, tu sais. C'est que, assumons-la. C'est ça, moi, j'ai tout le temps de la misère quand on fait des ateliers et qu'il y a du monde qui arrive à terme en disant, moi, j'ai rien à dire.
Impossible.
Impossible. C'est ça. T'as peut-être pas l'espace pour le dire, t'as peut-être pas envie de le partager maintenant. C'est
absolument
correct pour respecter ça. Par contre, c'est sûr que t'as quelque chose à partager avec le groupe. C'est que, prends le temps d'y réfléchir. Dis-moi ce dont tu as besoin pour être capable de l'exprimer, mais pars pas du principe que tu n'as rien à dire, c'est impossible.
Merci beaucoup, Steve. Quelle discussion enrichissante. Wow.
Ouais, tellement. J'aurais continué des heures encore, hein. Franchement.
On garde le cap, on prend soin de l'espoir, puis on se regroupe.
Exact. C'est un très bon résumé, ça.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez pu identifier comment vous pouvez intégrer la créativité et l'innovation dans votre vie. Si vous avez envie de plonger ou d'en apprendre davantage, vous pouvez me contacter sur mon site web innovecrea.com. Un merci tout particulier à Millimétrique qui a composé mes thèmes musicaux et à très bientôt.